Stéphane Tual de Météo Bretagne, Météo Concept, bonjour.
Bonjour.
Comment vous identifiez la naissance d'une tempête ?
Il faut plusieurs choses. Déjà, il faut des données d'observation. Et ces données d'observation, donc, on les récolte grâce à des satellites, grâce à des bouées, grâce à la circulation aussi des avions qui nous permettent donc de récolter des données. Et toutes ces données-là, ensuite, elles rentrent dans des modèles numériques. Et ces modèles numériques-là sont de plus en plus performants. Ils peuvent nous permettre justement en amont d'identifier une tempête plusieurs jours à l'avance. Là, c'était le cas pour Kiran. Et ces données d'observation, généralement, elles nous permettent donc d'anticiper beaucoup sur ce qui va se passer et d'identifier effectivement très au large sur l'Atlantique, au niveau de Terre-Neuve, le début d'une, ce qu'on va appeler une cyclogénèse, c'est-à-dire une genèse d'une tempête. On a plusieurs méthodes. Donc, quand en fait on anticipe une prévision entre 5 et 8 jours à l'avance, on va utiliser ce qu'on appelle une prévision probabiliste, donc des ensembles. Plusieurs scénarios qui vont nous permettre de voir, bon, bah là, il y a plein de scénarios qui envisagent un renforcement du vent ou une baisse de la pression atmosphérique. Donc, ça identifie déjà quelque chose qui va se passer. Ensuite, plus on se rapproche de séance, plus on va utiliser des modèles déterministes, c'est-à-dire des choses qui vont être un petit peu plus précises et qui vont nous permettre de calibrer la trajectoire et la force du vent. Et puis ensuite, à 48 heures près, là, on va pouvoir savoir la vitesse du vent et les zones précises qui vont être impactées par la tempête. Donc on a trois méthodes, et plus on se rapproche de l'échéance, plus en fait on assimile ces méthodes-là.
Y a-t-il plusieurs types de tempêtes ?
Il y a les tempêtes, effectivement, qui se nourrissent du courant de jet. C'est un courant qui circule environ à... En fait, c'est un tube qui circule à 10 km d'altitude environ, qui fait des méandres, en fait, entre les masses d'air chaud qui remontent encore de l'équateur et puis les masses d'air froid qui glissent du pôle. Donc, on a ce courant de jet à 10 km d'altitude qui, lorsqu'il est rectiligne, c'est-à-dire lorsqu'il circule vraiment d'ouest en est sur l'Atlantique, et bien, il va... Si une dépression croise la trajectoire de ce courant de jet, elle va propulser la dépression véritablement, lui donner un carburant nécessaire pour que cette tempête-là soit justement assez forte. Mais on a aussi d'autres types de tempêtes, c'est des toutes petites dépressions qui vont donc sur des échelles plus fines concerner une toute petite partie du territoire. Alors pour le premier cas, par exemple, c'est la tempête Kiran, donc les vastes tempêtes qui naissent loin et qui génèrent donc des gros systèmes. Et puis pour les plus petites tempêtes, j'ai un autre exemple, c'est la tempête Zeus en 2017, où là, à l'échelle d'un département, on va avoir des vents qui vont être extrêmement forts. Donc les tempêtes sont très différentes les unes par rapport aux autres. Après, généralement, quand elles atteignent des vitesses de vent de 180-200 km/h, donc les plus fortes tempêtes, il y a le courant de jet qui est vraiment un ingrédient essentiel et qui va vraiment servir de carburant à ces dépressions.
Peut-on alors parler d'ouragan après une tempête ?
Alors oui, là on parle de l'échelle de Beaufort. Donc l'échelle de Beaufort, c'est une échelle qui est utilisée par les marins, qui est calibrée de 0 à 12 en fonction de la vitesse du vent moyen. Donc le vent moyen, c'est toutes les rafales additionnées sur 10 minutes. Et on en tire un vent moyen et on la calibre en échelle. Et ainsi, on passe de brise ensuite à vent frais, ensuite coup de vent, etc., jusqu'à tempête et ouragan. Et l'ouragan, c'est l'échelle 12 de l'échelle de Beaufort. Mais ce terme-là, en météorologie, on ne l'utilise pas vraiment parce qu'en fait, un ouragan, c'est plutôt un système tropical qui circule en Atlantique. Donc, on va parler de violentes tempêtes plutôt. Et ces violentes tempêtes, ben, elles surviennent, on va dire, une fois tous les 15 ans, généralement en Bretagne. C'est statistique. Hein. Et d'ailleurs, quand on remonte les dernières grosses tempêtes qu'on a pu avoir en Bretagne, on a donc la tempête Kiran qui s'est produite cette année, 2023. On a 2020, la tempête Alex. 2017, la tempête Zeus, et puis ensuite il faut remonter à 1999 avec les tempêtes Lothar et Martin, et ensuite on remonte à l'ouragan 87, et à l'époque justement on ne nommait pas les tempêtes, et on avait, c'était les marins qui avaient démocratisé ce terme d'ouragan, qui signifie l'échelle 12 sur l'échelle de Beaufort, donc l'échelle maximale. Mais aujourd'hui on lui donnerait un nom à cet ouragan-là, à ce phénomène de vent très violent qui s'était produit en 87. Mais il restera dans la mémoire des Bretons comme l'ouragan.
Peut-elle se transformer et s'amplifier une fois qu'elle a franchi les côtes bretonnes ?
Alors non, elle est arrivée à maturité, on va dire, juste sur la Bretagne, Kiran, et ensuite elle s'est comblée un petit peu en rentrant dans les terres. Donc les vitesses de vent les plus violentes, c'était entre le Finistère, l'ouest des côtes d'Armor et une toute petite partie du Morbihan, ce qu'on appelle les montagnes noires, où là on a quand même relevé notamment dans l'intérieur des terres jusqu'à 150-160 km/h. Donc là on est au niveau quasiment des vitesses de 1987. Vraiment la partie la plus impactée, on va dire que c'est la presqu'île de Crozon, le secteur de Fouesnant, et pareil entre la rade de Brest et le secteur de Morlaix, où là on atteint vraiment les vitesses de 87. À l'échelle de la Bretagne, ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement y a des zones qui ont été moins impactées. Et quand on calibre un petit peu cette tempête, on voit que finalement, de façon globale, elle ressemble globalement à la tempête 1999, mais avec des dégâts beaucoup plus concentrés sur le Finistère.
L'anémomètre placé à la pointe du Raz a enregistré 207 km/h lors du passage de la tempête Kiran.
D'ailleurs, il y a une petite polémique, on va dire ça comme ça, dans le milieu de la météo. Alors, du moins, une précision à adapter. En fait, on n'a pas su vraiment si ce 207 est confirmé ou pas parce qu'on n'a plus de données ensuite. Et l'anémomètre donnait des trajectoires de vent qui n'étaient pas conformes avec la situation. Néanmoins, on retient quand même cette vitesse-là peut être observée, elle est au moins estimée sur ce secteur-là. Et maintenant, sur les vitesses de vent, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'a plus la même méthode qu'en 1999. Aujourd'hui, on utilise des anémomètres qui sont à ultrasons, donc avec des vitesses qui sont mesurées toutes les 0,2 ou 0,3 secondes. À l'époque, on mesurait des vitesses instantanées de 3 secondes. Donc du coup, on constate évidemment des vitesses de vent aussi importantes que 1987, mais avec un pas de temps plus court. Donc du coup, forcément, la tempête 1987 a été plus violente, incontestablement, en Bretagne.
Les prévisions météo sont de plus en plus précises.
Alors, la fiabilité a augmenté, effectivement, avec les supercalculateurs qui, quand même, c'est des calculs qui sont extrêmement précis. Un coucher sur une feuille de papier, c'est 3 fois la distance Terre-Lune. Donc, du coup, on a des calculs qui sont toujours aussi pointilleux, mais qui sont évidemment plus puissants avec ces serveurs. Donc, on a gagné en fiabilité. C'est incontestable quand on regarde la tempête Kiran. Mais comme je vous le disais en amont dans cette interview, les tempêtes ne se ressemblent pas les unes par rapport aux autres. Et c'est vrai que quelques jours après Kiran, on a eu la dépression Frédérico qui a généré un coup de vent sur la Bretagne. Et ce coup de vent, on avait beaucoup de mal à l'appréhender. Et on remarque que des éléments peuvent nous échapper toujours. Mais globalement, on a gagné, on va dire, 3 jours de fiabilité aujourd'hui en prévision par rapport à avant. C'est-à-dire qu'une prévision à J+2 en 2010, c'est une prévision aussi fiable à J+5 aujourd'hui en 2023.
On parle de réchauffement climatique. Y aurait-il de plus en plus de tempêtes dans les années à venir ?
Alors là, statistiquement, justement, on ne constate pas d'évolution dans le nombre de tempêtes, ni dans leur puissance dans les zones tempérées. C'est moins le cas pour les ouragans qui circulent en Atlantique, où là, ils sont plus puissants et probablement ils seront plus nombreux à l'avenir. Et ce qui est assez intéressant, c'est de voir que finalement, les tempêtes d'un même niveau il y a 30 ou 40 ans sont plus coûteuses aujourd'hui qu'à l'époque. Il y a plusieurs causes. C'est que d'une part, on a urbanisé énormément nos paysages. Donc, par conséquent, on expose beaucoup plus nos territoires à ces vents violents. Et on a aussi, en bord de mer, là, c'est pour la partie littorale, une hausse du niveau de la mer. Donc, forcément, des conséquences plus dramatiques lorsqu'une tempête se produit. Donc, les tempêtes ne sont pas plus nombreuses, mais elles sont plus coûteuses.
Des prévisions en temps réel à retrouver sur votre site.
Météo.bzh.
Merci, Steven.
Merci, belle journée, à bientôt.